La parabole du grain de moutarde fait partie de ces paraboles agricoles que l'on appelle les paraboles du royaume. Et elles prétendent expliquer de quelle manière arrive le royaume de Dieu. Or déjà, pour comprendre ce qu'elles veulent nous dire, ces paraboles, il faut savoir ce qu'est le royaume de Dieu, c'est-à-dire de quoi est-il question exactement. Et là, il y a plusieurs options possibles. La première, c'est de penser que le royaume de Dieu dont il est question là, c'est l'Apocalypse, la fin du monde ou le retour du Christ, c'est-à-dire un moment hypothétique de l'histoire où Jésus devrait revenir et rétablir sur terre un règne, le règne de Dieu, c'est-à-dire la justice, la paix, et la fidélité et la foi sur la terre. Alors dans cette hypothèse, cela voudrait dire que on attend la venue du royaume de Dieu, que l'on espère, le retour du Christ, et que finalement, d'abord, comme dit la première des deux paraboles, que l'on veille ou que l'on dorme, de toute façon, le royaume est en marche. C'est-à-dire que le royaume approche, que vous ayez la foi ou non, c'est en route. Et celle du grain de moutarde voudrait nous dire que, pour l'instant, on n'en voit pas trop la trace, parce qu'il y a beaucoup d'injustices sur terre, mais que néanmoins, il va venir, c'est promis, ça va arriver. Cette interprétation ne me convient pas trop, pour tout vous dire. J'ai d'ailleurs du coup un peu de mal à la défendre. Parce que je ne crois pas que le royaume de Dieu soit une réalité à venir d'un point de vue historique, je dirais concret, matériellement, dans l'histoire du monde. Je ne crois pas qu'un moment ou l'autre, Jésus va revenir et rétablir le règne et la paix sur la terre. Je n'y crois pas du tout. Et en particulier pour plusieurs raisons, mais l'une, c'est que si tous ces textes qui parlent de la fin du monde, du retour du Christ, de la venue du royaume de Dieu concernaient cet événement historique, alors cela ferait 2000 ans que les chrétiens liraient ces textes pour rien, parce que cela fait 2000 ans que les générations sont nées et sont mortes sans que cet événement arrive. Et par conséquent, je ne vois pas pourquoi il faudrait embarrasser les gens pour des événements qu'ils ne connaîtront probablement pas de leur vivant. Donc, la fin du monde, elle viendra quand elle viendra. D'une certaine manière, il y a extrêmement peu de chances pour que cela nous concerne. Et puis, il est vrai que les premiers chrétiens ont vécu dans cette croyance. Ils pensaient que immédiatement, la fin du monde serait là. Et donc, on voit les chrétiens dans les Actes des Apôtres qui vendent tous leurs biens, qui se mettent en communauté. Et on voit Paul qui dit aux gens, surtout, ne vous mariez pas, ne faites pas d'enfants, ne faites rien. Parce qu'ils étaient persuadés que la fin du monde, c'était pour les jours à venir. Et puis, finalement, la fin du monde n'est pas venue. Les chrétiens qui avaient tout vendu se sont retrouvés dans une misère effroyable. Et à la fin de sa vie, Paul dit aux gens, écoutez, arrêtez, mariez-vous, faites des enfants, travaillez et installez-vous dans le monde. Parce qu'apparemment, cette histoire de royaume qui doit venir, ça ne marche pas du tout. Donc, autrement dit, il y a eu certainement une erreur chez les premiers chrétiens. La question impertinente que je vais instiller dans votre esprit, mais à laquelle je ne répondrai pas, c'est est-ce que Jésus a partagé cette erreur ? Est-ce que lui-même pensait à une fin du monde imminente ou pas ? Je suis souvent un mauvais chrétien. Sur ce point, j'ai du mal à penser que Jésus ait fait une telle erreur ou ça invaliderait son message. Et donc, je veux penser que quand Jésus parle de royaume de Dieu, il parlait d'autre chose. Alors, de quoi ? Eh bien, moi, je suis un esprit simple. Et je me dis, qu'est-ce qu'un royaume ? Le royaume, c'est l'ensemble des personnes qui reconnaissent quelqu'un pour roi. Et par conséquent, il y a dans ce monde des gens ou des parties de chacun qui reconnaissent Dieu pour roi. Il y a en moi quelque chose qui dit, mais oui, le Seigneur est mon Seigneur, et moi j'obéis à Dieu, il est mon maître et mon Seigneur, et il me donne la vie. Et donc le royaume de Dieu, ce n'est pas, je pense, un moment historique de l'histoire du monde, mais c'est la foi dans ma vie. Et je participe par ma foi au royaume de Dieu. On peut le voir autrement, d'ailleurs, en disant qu'il y a dans ce monde différents règnes. Et puisque en grec, comme en hébreu, le mot règne et le mot royaume est le même. Il y a le règne minéral, il y a le règne végétal, il y a le règne de la vie biologique, animale, et puis il y a le règne du spirituel. Et donc, le royaume ou le règne de Dieu, c'est le règne du spirituel, c'est-à-dire la dimension de la foi, autrement dit. C'est la dimension de la foi, c'est notre vie spirituelle. C'est ce qui, en nous, fait que nous soyons plus que des animaux. Et autrement dit, c'est ça, le royaume de Dieu, je dirais, c'est la foi qui est en nous, autrement dit. Et quand on prie le Notre Père, que ton règne vienne, on ne demande pas tous les jours à Dieu que l'apocalypse patatras arrive sur la terre, mais on lui dit, Seigneur, que de notre foi grandisse et que nous puissions être tout entiers dans le règne de la paix, de la justice, alors que nous avons un pied dans le règne de Dieu, dans le royaume de Dieu, et un pied dans le royaume de l'égoïsme ou de la violence. Et donc c'est cela. Et d'ailleurs, j'ai une fois de plus une preuve, puisqu'on parle de la moutarde, du grain de moutarde, il y a un autre passage dans l'Évangile où Jésus dit « Si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, va dans la mer, et elle le ferait. » Et cela veut donc dire que le royaume de Dieu, dans la parole du Christ, c'est bien la foi du fidèle. Alors du coup, on comprend peut-être ce que peut vouloir dire cette parabole du grain de moutarde, c'est que la foi n'est pas une chose qui vient d'un coup, mais c'est de l'ordre de la croissance. Et que la foi, c'est quelque chose qui est appelé à grandir toute notre vie. Et je ne crois pas, d'une certaine manière, à la conversion brutale, mais la foi, c'est quelque chose qui est appelé à grandir et qui part de quelque chose qui peut sembler très petit au départ. Et même si on a au début une toute petite foi, une étincelle de confiance en Dieu, une micro-graine d'idée de ce que peut être l'absolu, la transcendance, Dieu ou le Christ, eh bien, cette petite chose en nous, il faut la soigner comme la prunelle de ses yeux et elle peut grandir jusqu'à devenir quelque chose de considérable. Et donc, oui, c'est bien cela. Même si la foi est petite, elle peut simplement grandir. Et que par conséquent, il faut construire sa vie sur les éléments positifs de son existence, sur, même s'ils sont tout petits, il faut apprendre à les regarder, prendre conscience de ses richesses et les faire grandir, et que même une toute petite foi, une toute petite espérance peut, si on y prend soin, emplir toute une vie et si on mise dessus. Alors cela, c'est intéressant, la foi est comme un grain de moutarde, comme une graine qui pousse et qui parfois est comme une herbe, parfois comme un épi. Et si on prend cette lecture, eh bien on a aussi une autre instruction très importante et qui tombe très bien pour aujourd'hui puisque nous sommes après le culte des confirmations, vous savez, les jeunes qui disent, qui attestent de leur foi devant l'Église, ce que nous avons fait il y a 15 jours, et on se dit, mais alors après, où sont-ils? Tiens, il y en a un, là, de confirmants au culte, ils sont où? Alors, leur foi, ça les a menés à quoi? Eh bien, la parabole y répond. Elle dit, la graine, elle est plantée, et elle pousse, mais elle ne donne pas forcément tout de suite des épis chargés de nourriture, de blé et d'autres choses. Ça passe par des stades où la foi est simplement comme le blé en herbe qui ne produit aucun fruit. Et ça, il faut savoir, aussi bien pour nous que par rapport aux autres que nous voyons ou aux jeunes, c'est que la foi, ce n'est pas nécessairement immédiatement qu'elle produit du fruit. Et parfois, notre relation à Dieu, notre confiance, peut être comme du blé en herbe, c'est-à-dire qu'elle est présente, mais elle ne produit rien. Et il faut avoir confiance dans cette réalité, y tenir et la laisser grandir, parce qu'un jour, elle produira du fruit au moment où on en aura besoin. Et donc, j'aime comparer ces adolescents et ces catéchumènes à ce que font les agriculteurs, vous savez, qui plantent le blé à l'automne. Et le blé monte un peu, il est à l'état d'herbe pendant tout l'hiver, et dès que vient le printemps, l'herbe pousse et produit les épis. Eh bien, je crois que pour beaucoup d'adolescents, leur foi est comme l'herbe du blé d'hiver, c'est-à-dire qu'elle reste là, à un état pas très développé, qui produit peut-être pas beaucoup de fruits chez certains, mais si elle est bien plantée, si l'herbe est là, le jour où il faudra, en très peu de choses, le grain sera mûr et produira du fruit. Autrement dit, il n'est pas nécessaire que chaque jour, notre foi nous console, nous supporte, nous fasse vivre et soit le rocher de notre existence. La foi peut très bien être en état de, je dirais, d'hibernation et de jachère. Mais l'important, c'est que ce blé en herbe ne meure pas, qu'il soit soigné, arrosé et présent, et qu'on lui laisse la chance, un jour ou l'autre, de porter du fruit. Il faut simplement de la patience. Mais me direz-vous, alors très bien, la foi grandit, elle produit du fruit ou n'en produit pas, suivant les moments, mais elle peut être appelée à en produire quand il faudra. Mais finalement, ça ne résout pas la question fondamentale qui est de savoir, mais quelle est la graine de départ? Qu'est-ce qui est cette graine de moutarde plantée qui pourra amener à cette foi extraordinaire qui apporte toutes les merveilles de la vie? Eh bien, il y a la réponse dans le texte qui précède celui que j'ai lu, que je n'ai pas lu parce que vous le connaissez par cœur. C'est la parabole du semeur. Vous savez, un semeur sorti pour semer, il sema sur des pierres, sur le chemin, dans de la bonne terre, et les grains plantés sur les mauvaises terres ne poussent pas, et dans la bonne terre, elles donnent plein de fruits. Et après, les disciples demandent à Jésus d'expliquer la parabole. Et Jésus l'explique, donc ça c'est une chance, et il dit ce qu'est la graine plantée. Le seul problème, c'est que je ne suis pas d'accord avec l'explication de Jésus. Je crois qu'elle est fausse. Jésus dit, ce qui est planté, c'est la parole. Il dit, c'est le semeur, ce qu'il sème, c'est la parole. Cette explication m'ennuie. Parce que quand j'étais enfant, les monitrices d'école biblique m'ont expliqué que la signification de la parabole du semeur, c'est que justement, c'était la parole. Donc il fallait bien écouter ce que dit la Bible, bien écouter la parole, bien écouter le catéchisme, et qu'il fallait que ça grandisse en soi pour que l'on puisse faire des fruits qui étaient les bonnes œuvres. Bon, ça se tient. Mais c'est faux. En tout cas, ça n'explique pas la parabole, c'est à contresens. Parce que si vous lisez la parabole, les fruits produits sont de même nature que ceux qui sont plantés. C'est-à-dire que je plante un grain de blé et je récolte des grains de blé. Donc ce n'est pas je plante une parole et je récolte une bonne œuvre. Au mieux, ce serait je plante une parole et je récolte une parole. Alors est-ce que ça voudrait dire que cette parabole nous enseignerait qu'il faut bien apprendre le catéchisme et bien le réciter ensuite? Ça me semblerait bizarre que Jésus enseigne une chose pareille, c'est totalement absurde. Donc cette explication est fausse et je ne suis pas le seul à le penser. La plupart des spécialistes de la Bible, des exégètes, disent « cette explication de la parabole du semeur est apocryphe », c'est-à-dire elle a été ajoutée plus tard, bien après la mort du Christ, au moment où l'Église se développait, pour essayer de faire la morale aux gens et de leur dire « attention, hein, il faut bien transmettre l'Évangile comme il faut rien changer, il faut bien transmettre tout ça ». Et donc ce serait quelque chose qui serait pas authentique. Bon, personnellement, j'ai du mal à penser qu'un texte de la Bible serait totalement faux. Mais pour l'instant, faisons-en abstraction. Et je me disais, tiens, c'est vrai, s'il n'y avait pas eu cette explication, la parabole du semeur serait magnifique. Parce qu'on dirait, mais qu'est-ce qu'on a reçu? Eh bien, c'est tout ce qu'on a reçu de Dieu. Et qu'est-ce qu'on reçoit de Dieu? Eh bien, des grâces. Et quelles grâces? Eh bien, c'est là la magie d'une parabole. C'est que justement, dans une parabole, chacun va entrer et va pouvoir mettre sa propre histoire dans l'histoire. Et dire, moi, ce que j'ai reçu, c'est ceci ou c'est cela. Parce que chacun de nous avons des chances et des grâces, et nous n'avons pas tous les mêmes. Et je dirais même que la parabole du semeur, il faudrait la lire tous les matins, et dire, mais ce matin, Seigneur, je me réveille en bonne santé, ben tiens, c'est déjà une grâce. Je me réveille, j'ai une famille qui va bien, c'est une grâce. Il fait beau, c'est une grâce. Je ne sais pas moi, mais chaque jour nous avons des grâces différentes, nous avons des chances, c'est-à-dire des cadeaux de la vie. Nous avons des cadeaux qui sont immérités, parce que le semeur, il sème, et la semence qu'il donne, ce ne sont pas des récompenses. Il ne dit pas, tiens, là la terre, elle a l'air bonne et grasse, je vais lui donner plein de semences. Tiens, là c'est caillouteux, je ne vais rien lui donner. Mais le semeur, au contraire, il a la main large et il sème de la même manière dans la bonne terre et dans la mauvaise. Et donc, c'est vraiment cette image extraordinaire de la grâce de Dieu qui donne, non pas par rapport à des mérites, non pas non plus par rapport à ce qu'il pourrait supputer de l'effet que l'on pourrait, de l'usage qu'on pourrait en faire, mais il donne, sans question, sans condition. Alors vous me direz, tout le monde n'a pas autant de chance dans la vie, ça c'est vrai, et certains reçoivent plus que d'autres, donc il n'y a pas d'égalité, mais en tout cas ce n'est pas une question de mérite, c'est comme ça. D'ailleurs, il y a une autre parabole de Jésus qui va dans ce sens. C'est la parabole des talents. L'un reçoit un, l'autre deux, l'autre cinq. Bon, voilà, il y a des gens qui reçoivent plus. Mais chacun reçoit quelque chose. Et dès le moment qu'on a quelque chose, même si c'est petit comme un grain de moutarde, eh bien, il faut le prendre, cette petite chose. Et il faut la faire grandir en soi. Parce que c'est ça, la parabole du semeur. Le grain qui est semé, la bonne terre, elle prend ce grain. Et je dirais, elle le mange. Le grain meurt, il est avalé par la terre. Et alors, ça fait grandir quelque chose qui pourra en redistribuer. Et donc, toutes ces grâces qui nous sont faites, nous devons les accepter, les prendre avec reconnaissance et nous en nourrir, tout simplement. Et puis, les laisser grandir en nous. Et si vous vous remplissez des grâces de votre vie, vous n'avez rien à faire d'autre. Votre vie, simplement, va s'épanouir. Et quand une vie est épanouie, quand une vie elle est heureuse, joyeuse, florissante, eh bien tout le monde en profite. Parce que finalement, c'est ces gens-là qui font du bien au monde. Ce n'est pas les gens aigris qui sont tristes parce que j'ai rien, j'y arrive pas, je suis mauvais, je suis pas bon, je suis pécheur, je suis coupable. Ça ennuie tout le monde. Ce qui est bien, c'est les gens heureux, joyeux, reconnaissants. Alors évidemment, on n'a pas que des chances, mais on a tous, à un moment donné, une petite chance quelque part. Et on a tous au moins un talent quelque part. Et ce talent, il nous appartient de le prendre et de dire « Seigneur, j'ai une grâce. » Et même si ce talent, il est tellement petit que vous ne pouvez même pas le voir, moi je sais que je l'ai, comme le grain de moutarde, je vais le faire grandir. Je me souviens une fois, j'avais prêché là-dessus pour les enfants de l'école biblique. Et j'aurais dit « Vous savez, c'est grand comment un grain de moutarde ? » Ben, je vais vous en montrer un, tenez. Voilà. J'en ai un là. Vous le voyez ? Non. Vous ne le voyez pas. Moi, je le vois. Il est là, tout petit. Extraordinaire. Et celui qui dit, bien, cette petite grâce, personne d'autre que moi ne la voit, je vais construire ma vie dessus. Et ça, c'est vraiment une méthode incroyable. Et l'Évangile est là, merveilleusement positif. Et il dit, vous pouvez construire un arbre plus grand que toutes les plantes potagères à partir d'une seule grâce microscopique. Alors, l'explication de Jésus, je suis prêt à l'accepter quand même, parce que peut-être d'abord que Jésus, il dit aux disciples, « Pour vous », voilà ce que ça signifie. Et donc, c'est l'explication qui ne serait valable que pour les apôtres. Eux, la principale chance qu'ils ont eue, c'est de rencontrer le Christ. C'est le rêve de tout chrétien, donc eux, ils l'ont vécu, ils l'ont accompagné, ils ont entendu cet enseignement. Donc Jésus leur dit, ça c'est votre principale chance, donc ce que vous avez reçu là, vous devez le transmettre. Donc c'est pour eux, c'est pas pour nous. Encore que c'est un peu pour nous aussi, mais on n'a pas que ça. Ou alors, l'autre explication, c'est de dire, oui, ce qui est semé, c'est de la parole, mais de toute façon, Dieu est parole, et toutes les grâces de Dieu sont parole. C'est une parole d'amour, c'est une parole d'amour. Le pardon, c'est une parole de pardon. La grâce, c'est une parole de grâce. Donc oui, tout est parole. Donc, admettons éventuellement cette explication. Mais en tout cas, l'important, c'est que, justement, chacun reçoit quelque chose. Alors après, certes, cette grâce est magnifique, elle est sans condition, elle est universelle. Mais il n'empêche évidemment que Dieu a un espoir de ces grâces données, c'est qu'elles puissent fructifier. Et là j'aime ça aussi, cette idée que Dieu, je dirais, met son espoir dans l'homme. C'est le pasteur Charles Wagner qui avait dit ça, il avait dit « L'homme est une espérance de Dieu ». Et je trouve que c'est assez beau parce que nous passons notre temps à attendre de Dieu, « Donne-moi ceci, donne-moi plus cela, donne-moi... » Et en fait, Dieu a déjà donné. Mais simplement, Dieu maintenant attend que cette graine soit acceptée et qu'elle grandisse pour en redonner d'autres. Et donc, ce qui est extraordinaire, ce n'est pas que vous croyez ou non en Dieu. Ça n'empêche absolument pas Dieu d'être, que vous croyez ou non en lui. Mais, je dirais, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu croit en vous. Dieu croit en vous. Il y a en vous une richesse, il y a en vous un trésor en vous-même, il y a en vous une fécondité possible, et il y a en vous une puissance de création divine, et vous pouvez être dans ce monde des sources de toutes les grâces de Dieu autour de vous dans le monde, des sources de paix, de joie, d'espérance, de confiance. Parce que c'est ça qui est assez curieux. Ces graines-là, je vous ai dit, celles qui sont ramassées sont de même nature que celles qui sont plantées. Donc si ça se trouve même, celle que j'ai reçue, elle ne tombe pas du ciel, elle a été poussée sur quelqu'un d'autre. Et que par conséquent, les grâces de Dieu dont je parle, peut-être que Dieu nous les donne directement, mais peut-être aussi que Dieu nous les donne par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que les frères et les sœurs qui sont autour de nous sont en train de nous donner les grâces de Dieu. Et alors nous passons notre temps à refuser les cadeaux de nos proches, à refuser les sourires, les joies, les confiances, la présence de ceux qui sont autour de nous. On refuse les cadeaux. « Ah non, 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 non. » Et après on dit « Mais Seigneur, tu ne me donnes rien. » Mais le Seigneur dit « Mais je n'arrête pas de te donner des choses par tes frères, par tes sœurs, par tes proches, par ton mari, tes enfants, tes grands-parents, tes amis. Je n'arrête pas de te donner des choses et tu les refuses. » Et donc oui, savoir regarder, découvrir, trouver, prendre conscience des grâces de Dieu, c'est une chose extraordinaire. Et c'est, je crois, le sens aussi, je reviens à cette parabole des talents qui est évidemment liée à tout cela, qui se conclut par cette phrase paradoxale, « On donnera à celui qui a, et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » C'est très paradoxal. Et moi qui suis un esprit rationnel, j'ai toujours été choqué par ça et surtout j'ai dit c'est absurde. À celui qui n'a pas, on ôtera ce qu'il a. S'il n'a rien, on ne peut rien lui retirer. Eh bien si, parce que ce que nous dit la parabole, c'est que celui qui croyait ne rien avoir, en fait, il avait donc quelque chose. C'est-à-dire que son erreur, ça a été de croire qu'il n'avait rien alors qu'il avait quelque chose. Et sur ce petit quelque chose, même infime, même grain de moutarde, il aurait pu construire dessus. Et donc la première chose à faire, c'est bien ça, c'est d'apprendre à voir ce grain de moutarde. Peut-être c'est difficile à trouver, comme, j'allais dire, une aiguille dans une botte de foin, mais quand on l'a trouvé, on peut construire dessus. Autre passage qui va dans ce sens dans l'Évangile, quand Jésus dit... l'œil est la lampe du corps. Si l'œil est en bonne santé, tout le corps est illuminé. Donc nous disons, Seigneur, je suis dans les ténèbres, donne-moi la lumière. Mais ce qui m'éclaire, c'est pas la lumière, elle est déjà là. C'est l'œil, la façon de regarder les choses. Et la façon, effectivement, de voir, je dirais, la grâce présente, ou le verre à moitié plein, plutôt que le verre à moitié vide, mais en tout cas, certainement, apprendre à voir cet invisible et à le faire grandir en soi et comprendre que je peux en profiter et que Dieu espère que moi-même, je sois à donner aux autres ce qui a grandi en moi, mais ce n'est pas de l'ordre du devoir. Et donc, se nourrir de ces grâces, vous disais-je, quelles qu'elles soient grandes ou petites, savoir les trouver, les repérer, les prendre soigneusement, les manger, les mettre en soi pour qu'elles grandissent et laisser cette joie opérer en nous. Parce que le christianisme n'est pas une religion de la loi ni de la culpabilité, mais c'est une religion de la reconnaissance, c'est une religion, je dirais, de la joie, c'est une religion gracieuse, je dirais. Et je pense effectivement qu'on ne construit rien de bon sur la culpabilité, sur le manque ou sur la tristesse. Mais tout ce que l'on construit de bon dans notre vie, c'est sur le don, c'est sur la grâce. Et c'est ce que nous signifions d'ailleurs quand nous baptisons des enfants, comme nous le ferons tout à l'heure. Nous leur disons la base de toute vie chrétienne, c'est l'amour de Dieu qui est offert. Ça, c'est premier. Et on baptise même des tout petits bébés qui n'en savent rien, qui ne comprennent rien. Et c'est parce que la grâce de Dieu n'attend pas que nous en ayons conscience. Elle est offerte, point. Et la vie chrétienne, c'est de dire merci Seigneur. Tourner sa vie vers la vie pour pouvoir donner la vie. Et la promesse ultime du texte, c'est que, on nous dit, ça devient un arbre et que même les oiseaux du ciel viennent habiter dans les branches. Et ça, c'est précieux parce que cela veut dire que si nous nous remplissons de ces chances, non seulement nous pourrons en redistribuer aux autres, ce qui est très bien pour le monde et bien sympathique, mais c'est plus que ça, parce que les oiseaux du ciel, c'est le Saint-Esprit, c'est la présence même de Dieu. Ça veut dire que quand on est dans cette logique de la croissance de cette graine de moutarde en nous, eh bien même l'Esprit de Dieu viendra habiter en nous. C'est-à-dire que la présence de Dieu se fait effective dans celui qui déjà accepte les grâces de Dieu. C'est la seule chose. Parce qu'alors nous pouvons être pleins de cette source de vie, de paix, de joie, d'espérance qui sont infinies et éternelles. Amen.